Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale.
Alors bonjour, donc aujourd'hui on va reparler probablement une dernière fois de la preuve de la conjecture d'Allon par Joel Friedman. Et puis, tout en la présentant, je vais comparer avec la nouvelle méthode introduite l'an dernier qui s'appelle la méthode polynomiale. Donc, je vais introduire, on va commencer à partir de maintenant à parler plus sérieusement de cette nouvelle méthode polynomiale. Et je vais parler d'une partie de cette méthode aujourd'hui. Et puis, à partir du mois de janvier, je donnerai le reste, les compléments sur cette méthode polynomiale. Comparaison avec la nouvelle méthode qui s'appelle la méthode polynomiale. Qui est due. Alors je vais écrire. C'est une méthode qui a été inaugurée l'an dernier et qui est due à. C'est un papier de Chen Garza Vargas. Propre. Et 23. Donc depuis quelques séances, on travaille avec un graphe régulier aléatoire. Avec grand N, c'est le nombre de sommets. Et puis, je note, je fais des va-et-vient entre les deux notations, D et parfois noté Q plus 1. La variable Q, c'est plutôt celle qui est utilisée en analyse harmonique. Et je travaille avec le modèle de configuration. Je fais tous les calculs avec le modèle de configuration. Le modèle aléatoire qui s'appelle le modèle de configuration. Et puis pour étudier, donc on étudie les valeurs propres de la matrice d'adjacence d'un tel graphe, et pour les étudier, on est parti de la formule des traces. Alors, je reprends. On est parti d'une fonction phi de z dans C qui est paire. Et on a introduit une espèce de transformée de Fourier. C'est une série de Fourier plutôt, puisqu'on est sur des graphes, donc on est seulement avec des variables discrètes. Donc ça, transformée de Fourier, c'est. Je l'ai noté comme ça, somme pour L appartenant à Z de phi de L Q puissance I LS. Et j'ai demandé aussi toujours que phi chapeau soit une fonction positive. Et cette fonction-là, cette série de Fourier, c'est une fonction périodique. Elle est périodique de période de pi sur ln de Q. Et puis, si vous vous souvenez, alors le lien entre. Alors, si j'appelle lambda les valeurs propres de la matrice d'adjacence, donc. La matrice d'adjacence, c'est un opérateur symétrique, auto-adjoint. Donc, ce sont des lambdas réelles, les lambdas J. Et si vous vous souvenez, il est d'usage de les reparamétrer en posant lambda. C'est égal Q puissance 1/2 plus IS plus Q puissance 1/2 moins IS. Et puis, dans la méthode de Friedman, au lieu de travailler avec la matrice d'adjacence, on travaille plutôt avec la matrice de Hashimoto. Et il se trouve que pour les graphes réguliers, il y a un lien exact entre les deux spectres. Si j'appelle lambda j les valeurs propres de la matrice d'adjacence et que je prends Q, donc je fais ce changement de variable, et les quantités Q à la puissance 1/2 plus ISJ, donc cet ensemble-là, union plus ou moins 1, ça c'est le spectre de la matrice de Hashimoto. Et alors dans la méthode de Friedman, on préfère plutôt travailler avec la matrice de Hashimoto, qui n'est pas, bon, c'est une matrice qui n'est pas symétrique, donc son spectre est complexe. Dans la méthode polynomiale, il vaut mieux toujours rester avec la matrice d'adjacence pour utiliser des opérateurs auto-adjoints. Cela dit, il y a un va-et-vient possible entre les deux. Et alors dans la méthode des traces, les deux méthodes repose sur la méthode de trace. Ah oui, puis peut-être du coup ce que je peux dire aussi, c'est que avant de passer à la méthode des traces, c'est que donc si je fais ce changement de variable, le fiche chapeau de S, je peux aussi l'écrire comme somme. Alors il y a phi, L égale 0 qui est un peu différente, il y a phi de 0 qui correspond à L égale 0, et puis le reste je peux le réécrire. Si au lieu de travailler avec la variable S, j'ai envie plutôt de repasser à la variable lambda, je peux utiliser les polynômes de Chebyshev. Alors, je travaille pour l'instant uniquement avec des fonctions à support borné. Alors là, si je veux repasser en la variable lambda, en fait, je vais utiliser les polynômes de Chebyshev qui sont, je vais les définir comme ça, TL de 2 cos x égale 2 fois cos de Lx. Donc on voit qu'en fait, mon phi chapeau de S, si je le réécris grâce à la variante lambda, c'est un polynôme en lambda. Un polynôme même de degré grand L. Donc le grand L ici, c'est le degré du polynôme. Donc en fait, je suis en train de travailler avec des fonctions polynomiales, des polynômes de la matrice d'adjacence. Et la méthode de trace. Elle consiste à exprimer l'espérance, donc prise par exemple pour le modèle de configuration, de somme des phi chapeaux de SJ. Ou si on veut, c'est l'espérance de ce polynôme de lambda en... c'est l'espérance de la trace de ce polynôme évalué en la matrice d'adjacence. Et on avait démontré la fauche suivante. Il y a une première partie qui s'écrit comme l'intégrale de phi chapeau de S fois une certaine mesure, qui est une mesure qui a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Et puis, il y a un développement limité en puissance de 1 sur n. Et puis, ça, c'est les calculs qu'on avait fait la dernière fois. Le développement limité, il va s'écrire comme somme de fk, pardon, il ne faut pas que je me trompe dans les notations, f indice r, ici l'indice c'est r, de l, phi de l, q puissance moins l sur 2. Et puis il y a un reste. Donc un reste qui est aussi que je vais voir comme une fonction de phi. Donc ici il y a des formes linéaires que je peux. Ici ça c'est des. Si je regarde la dépendance en phi, à la fois le reste et ces coefficients-là. C'est des formes linéaires appliquées à phi. Ou au polynôme P, selon la variable à laquelle je préfère travailler. Et à la fois dans la méthode de Friedmann et dans la méthode de polynomial, le but c'est d'essayer d'en savoir plus sur ces formes linéaires. Alors l'intégrale de phi chapeau de S dm de S, je peux aussi l'écrire, c'est grâce à mon changement de variable, c'est aussi la même chose que intégrale de P de lambda sur racine de Q fois une certaine mesure en lambda qui est portée entre. Cette mesure est complètement explicite, hein, je crois que j'avais écrit la formule à une séance précédente, c'est une mesure qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Et ici, elle est supportée en. Si je le mets en lambda. Oui. Je vais l'appeler comme ça. Ah, si. Lambda sur racine de Q est compris entre moins 2 et 2. Ça, c'est la mesure de. Calculé par Kesten et Mapke. Et puis, ce que Friedmann a démontré, alors ça, pour l'instant, je parle de son premier article qu'il avait écrit en 91, où il était bloqué, justement, sa méthode ne marchait que jusqu'à un certain seuil de grand R. Il a montré que si R. Donc il y a une valeur seuil, que j'ai peut-être appelée R indice C, jusqu'à laquelle on peut montrer que les fonctions FR, ce sont des fonctions de Ramanujan. Alors la valeur, c'est, je ne me trompe pas, c'est, je crois de mémoire que c'est racine de Q moins 1 sur 2. Bon, je vérifierai tout à l'heure. Mais il y a une valeur seuil jusqu'à laquelle Friedmann, et j'avais donné l'argument, s'est montré que fr de L, c'est une fonction de Ramanujan, c'est-à-dire que c'est de la forme un polynôme, et on avait même vu que le degré c'était 2r en L, fois q puissance L, plus un reste qui croît en q puissance L sur 2. Ce qui fait, alors ce q puissance moins l sur 2, il vient dans la formule des traces. Donc peut-être je vais tout de suite faire la simplification. Si je divise par q puissance l sur 2, celui-ci se retrouve divisé par 2 et celui-ci disparaît. Donc ça, Friedman démontre ça jusqu'à cette valeur seuil. Et puis, en fait, alors si vous vous souvenez, pour le démontrer, on avait utilisé la notion de fonction polyexponentielle et puis un lemme de convolution. Et au moment de l'énoncer, j'avais eu un petit doute sur les notations. Donc je vais le réénoncer. Donc on se donne un ensemble fini dans C qu'on appelle la base. Mais en fait, pour le modèle de configuration, lambda, c'est simplement D-1. Autrement dit, c'est un singleton, hein, c'est juste la valeur Q. Si on avait travaillé avec le modèle de permutation, le lambda, ça aurait été 3 valeurs. Donc à la fois D-1, plus 1 et moins 1. Et puis, par exemple, si on travaille avec le modèle de revêtement aléatoire, le lambda, ça va être les valeurs propres du graphe de base. Donc il y a un ensemble fini, qui dans notre cas est particulièrement simple. Et puis, ce qu'on appelle, si on a une fonction définie sur les n, une fonction à n variables entières, on va dire qu'elle est polyexponentielle si elle s'écrit comme une combinaison linéaire de polynômes en les L1, Ln, et puis bêta1 à la puissance L1, bêta n à la puissance Ln, et bêta à toutes ces coordonnées. Donc les bêta, c'est aussi des coordonnées, c'est des vecteurs dans C puissance n. Et toutes ces coordonnées sont dans lambda. Ensuite, on avait défini ce que Friedman appelle la dot convolution. Donc on a deux fonctions f et g qui sont des fonctions toujours à n variables. On avait défini ce qu'on appelait la dot convolution. Et on peut même introduire une contrainte, convolution avec contrainte, où ici on fait, donc ici on fait la somme sur tous les vecteurs m et l, et on demande que toutes les coordonnées de l soient plus grandes qu'une certaine valeur seuil. Ça, pour l'instant, ce raffinement, on ne l'a pas encore utilisé. Et en fait, le théorème de Friedman, qui est derrière la preuve de cette propriété de fonction de Ramanujan, ça c'est ce qu'il appelle des fonctions de Ramanujan, le théorème de Friedman, c'est que si on prend une fonction qui est polyexponentielle dans la base lambda, et si on sait borner la fonction g, donc on prend tous les g de m où on demande que psi scalaire m soit égal à grand M, si on sait qu'il y a une borne exponentielle sur grand M, alors la convolution est elle aussi une fonction polyexponentielle et avec une erreur. Et le rho prime, l'erreur, c'est le max entre la borne qu'on avait sur G et puis racine de bêta. Et bêta, je ne l'ai pas écrit. Bêta, c'est le max des éléments de lambda. Donc dans notre cas ici, ce bêta, c'est Q puissance 1/2. Alors là où j'avais été un petit peu, j'avais eu des doutes au moment de l'énoncer la dernière fois, c'est que au départ, f et g sont des fonctions à n variables, mais ici la convolution, c'est une fonction de une variable. Donc du coup, le fait d'être polyexponentiel, c'est cette définition-là, mais avec n égale 1, ça veut dire que c'est simplement la somme, cette fonction, elle est de la forme somme des p, comment je vais l'écrire, p lambda. Voilà, c'est une fonction d'une variable qui est de la forme, il y a tous les éléments possibles de grand lambda, un polynôme en k, et puis lambda à la puissance k. Mais dans notre cas, encore une fois, dans lambda, lambda est constitué uniquement du singleton D-1. Donc voilà, j'ai réécrit les résultats de la dernière fois à cause de ce doute que j'avais eu sur le... Voilà. Et donc, on avait vu voilà, que jusqu'à un certain seuil, on s'est démontré, en appliquant ce résultat sur la convolution, on s'est démontré que les coefficients qui sortent là sont des fonctions de Ramanujan. Et en fait, ce que je n'avais pas dit, mais si on veut partir dans des raffinements un petit peu de la méthode, cette méthode, elle nous dit encore quelque chose. Peut-être il faut, ouais, il faut. Ouais. En fait, cette méthode, elle continue à donner une information intéressante tant que racine de bêta. Oh, c'est pas possible. On va y arriver. Bon, visiblement, il s'est passé quelque chose parce que il y a beaucoup de. En fait, d'une manière générale, la méthode nous donnait que fr de L Q puissance moins L sur 2, c'était. On avait toujours ce polynôme à la puissance L. Moi, je ne vais pour l'instant pas diviser. Plus grand O. Là, le nombre qui sortait ici, si on faisait le développement limité jusqu'au rang R, c'était 2R plus 1. Pourquoi ? Parce qu'on avait obtenu ce nombre comme la valeur propre dominante de Hashimoto sur un bouquet de cercles. Hein, ça, c'était la plus grande valeur propre de la matrice de Hashimoto sur un bouquet de R cercles. Ou plutôt, oui. Donc, d'une manière générale, on obtient ça et on voit qu'en fait, si on veut que le reste reste petit devant ce terme-là, il faut que 2R plus 1 soit plus petit que Q. Donc, autrement dit, on pourrait continuer ce qu'on avait fait la dernière fois jusqu'à un rang. Du coup, ça fait Q moins 1 sur 2. Et puis, si je divise. Oui. Alors. Donc tous ces éléments-là, ils sont utilisés dans les deux méthodes. Ce qui fait que à chaque fois, cette forme linéaire, si je regarde l'application qui a phi associe la somme. Donc, les coefficients, c'est une forme linéaire en phi. Peut-être ici, j'aurais dû multiplier par L. Donc, cette forme linéaire, tant que R est plus petit que Q de moins 1 sur 2, on peut la décomposer en deux morceaux. Donc, il y a un terme principal qui vient des polynômes. Donc, il va y avoir somme des L P puissance 2R de L. Phi de L Q puissance L sur 2. Et puis, il y a un autre terme. Donc, ça, c'est le terme dominant qui va s'écrire. Celui-ci, je vais l'appeler, cette forme linéaire-là, je vais l'appeler delta R de phi, ou peut-être delta R de P. Ça dépend hein, toujours si je veux voir ça comme une forme linéaire en la fonction phi ou en la fonction P. Et puis, il y a le terme d'erreur qui va s'écrire comme somme de phi de L Et puis là, j'avais un terme dont je sais moins de choses, mais je sais qu'il est borné par L puissance C. Alors, il y a deux régimes. Il y a... Si... Donc, ce deuxième terme, c'est celui qui s'appelle, on va l'appeler numéraire de P. Et alors, si R est plus petit que la valeur critique R indice C, on peut dire que les coefficients de la forme linéaire, ils sont bornés polynomialement. Et puis, si on dépasse la valeur critique, on se retrouve avec ces valeurs. 2 puissance 2R plus 1 sur Q1 demi à la puissance L. Et ça, c'est si R est plus grand que la valeur critique. D'accord, donc il y a les coefficients là qui sortent, je les décompose en deux morceaux, il y a la partie polynomiale fois q puissance l sur 2, et puis il y a les termes d'erreur qui sont en fait la différence entre les deux méthodes, entre la méthode de Friedmann et la méthode polynomiale, c'est essentiellement sur la manière de comprendre ces termes d'erreur. Et puis je dois aussi dire qu'il y a le reste. Lui aussi, c'est une forme linéaire en phi. Et puis, si j'applique juste la méthode de Friedmann, il va s'écrire comme somme. Je crois qu'il y a un polynôme de degré 2R plus 1, il me semble, phi de L. Et puis, il y a quelque chose qui est en grand taux de Q puissance L sur 2. Que je peux effacer tout ce qui est à droite ici. Alors ces formes linéaires, alors c'est quoi, si je raisonne en termes du polynôme P, vous voyez ici, j'ai cette formule-là me dit simplement que j'ai développé le polynôme P dans la base des polynômes de Tchébyshev. Et les phi de L, c'est les coefficients dans ce développement. Alors à partir de là, je ne vais pas écrire le détail, mais c'est pas, on peut démontrer que cette première forme linéaire... Alors je vais l'écrire comme une proposition... c'est que delta R de P, c'est une combinaison linéaire des dérivés de P jusqu'à l'ordre... probablement 2R, je crois. Donc des dérivés de P en lambda sur racine de Q qui doit être égal à en fait là, comme j'ai tout écrit en fonction de lambda divisé par racine de Q, je vais poser peut-être X égale à lambda sur racine de Q. Ça, je laisse pour ça, les étudiants peuvent chercher ça comme exercice à la maison. Donc c'est une combinaison linéaire de dérivés de P en ce point particulier là, jusqu'à des dérivés jusqu'à l'ordre 2R, il me semble. Plus une distribution plus mu r de p, où mu r, c'est une distribution. On va dire, je suis d'ordre, donc une distribution au sens de Laurent Schwartz, et je crois que l'ordre, ça doit être, bon, on va dire 2R plus 2, mais je pense que c'est même peut-être un peu mieux, portée de support moins 2B. Là, ça, c'est de l'analyse de Fourier. Il faut écrire un petit peu les calculs, mais je vais pas faire les détails. Ça, c'est une première chose. Donc, ces fonctions-là, en fait, ça, ce que ça nous montre, c'est que delta R, c'est une distribution. Qui est de la forme. Il y a des masses de Dirac. Donc des dérivés de masse de. Il y a des masses de Dirac en ce point-là et toutes leurs dérivées jusqu'à l'ordre 2R. Et puis il y a autre chose qui est une autre distribution, mais qui est portée par moins 2, par l'intervalle moins 2, 2. Donc si on se souvient de notre dessin du spectre, le terme dominant, la delta R, on a une compréhension très satisfaisante de ce terme dominant. Il y a des masses de Dirac en Q plus 1, et puis il y a autre chose, il y a une autre distribution qui est portée ici. Ah, oui, parce que ça veut dire que x égale Q plus 1 sur racine de Q, ça veut dire que lambda égale Q plus 1. Et puis ça veut dire... Dire que x est dans moins 2, 2, ça veut dire que lambda est dans moins 2 racine de q, 2 racine de q. Alors tout ça, c'est déjà dans Friedman. Alors la grosse différence donc, entre la méthode polynomiale et Friedman, c'est la compréhension des termes d'erreur. Parce qu'avec la méthode de Friedman, alors on peut voir aussi grâce à l'analyse de Fourier que tant que R est plus petit que la valeur critique, ces termes-là, ce sont aussi des distributions. En fait, ça, c'est de l'analyse de Fourier classique. Donc ça, je peux l'énoncer aussi sous forme d'une proposition. Tant que R n'a pas dépassé la valeur critique, les nu R sont aussi des distributions. Je crois même, il me semble qu'ici, encore une fois, le polynôme, je crois que c'est 2R. Bon, je ne sais plus. Ce sont des distributions. En fait, dans la méthode de Friedman, n'a pas fait très attention aux puissances qui sortaient. Encore une fois, tant qu'on n'a pas dépassé la valeur critique, en fait, le reste, le nu r, le terme d'erreur, on sait aussi que c'est une distribution qui est portée par les lambdas dans moins 2 racines de q, 2 racines de q. Et ça, c'est de l'analyse de Fourier classique. Si on voit les phi de L comme des coefficients de Fourier, le fait que cette forme qu'une forme linéaire de ce type-là, ça soit une distribution, c'est quelque chose de classique. Alors la grosse différence de la méthode polynomiale, donc, qui est quelque chose qui est démontré par Chen, Garza, Varga, Tropp et Van Handel, c'est ce qui concerne le reste. Parce que donc pour dans la méthode de Friedman, le reste, on ne peut pas tellement dire plus que ça. Et en fait, si j'écris le reste comme ça, bon, c'est juste une borne supérieure, je sais. Le reste, je l'écris comme une forme linéaire en phi, et je sais juste que si je raisonne avec les coefficients de Fourier phi de L, je sais juste que les coefficients ici croissent exponentiellement vite, et ce qui n'est pas suffisant pour conclure que cette forme linéaire-là est une distribution. Donc dans la méthode de Friedman, en fait, on se contente d'utiliser cette borne-là, alors que dans la méthode polynomiale, on montre que le reste... on va plutôt le voir comme dépendant en P. C'est, en fait, on montre que c'est plus petit que la norme de P. La norme en fait, des dérivés de P, c'est jusqu'à l'ordre. C'est 4R plus 9, je crois. Enfin, ces valeurs-là n'ont pas énormément d'importance. Donc on obtient une borne comme ça, on peut le borner en fonction d'un certain nombre de dérivés de P, ce qui est bien meilleur que la borne qui est écrite là-bas. Donc c'est une distribution. Et son ordre, l'ordre c'est le nombre de dérivés qui sont impliqués, d'ordre 4R plus 9. Et puis de la même, en fait, par la... De la même manière, les nus R pour R plus grand que la valeur critique, leur méthode montre aussi que ce sont des distributions. Donc, nu R est une distribution. Et l'ordre, c'est d'ordre... 4R plus 5. Donc c'est vraiment sur cette compréhension de la dépendance en phi. Le fait que ça soit une distribution, ça va beaucoup plus loin que de juste avoir cette majoration-là. Alors, petite remarque, dans la méthode polynomiale, donc grand R, hein, c'est l'ordre auquel je décide de faire mon développement limité. Une autre différence, c'est que dans la méthode polynomiale, si on veut montrer uniquement la convergence forte du spectre, il suffit de s'arrêter à R égale 0. Donc ici, de faire des développements jusqu'à un ordre, jusqu'à avoir un reste 1 sur N. Et pousser les développements limités plus loin, ça donne des résultats plus raffinés. Mais c'est déjà, on rentre déjà dans des sophistications. Hein. Alors que dans la méthode de Friedman, on est obligé de pousser vraiment les développements limités à l'ordre le plus grand possible. Je crois que je vais effacer ça. Donc je vais l'écrire, ça, cette remarque. Alors, remarque... Dans la nouvelle méthode, dans la méthode polynomiale, R égale 0, donc donne déjà le résultat de convergence forte. Et donc, voilà, pousser les développements plus loin, ça, Ça donne des détails plus fins du spectre que j'énoncerai probablement. Alors que dans la méthode de Friedman, il faut vraiment essayer de prendre R le plus grand possible. Et dans la méthode de Friedman, on est de toute façon bloqué à la valeur critique. Dans la méthode de Friedman, il faut prendre R le plus grand possible. Et puis, dans son premier article en 91, Friedman était bloqué à la valeur critique. Donc dans le premier article de 91, la méthode s'arrête à R égale RC, donc on est bloqué à cette valeur critique, et dans l'article paru en 2008, Friedman a réussi à se débarrasser des mauvais graphes qu'il appelle tangles pour aller à R arbitrairement grand. Peut-être je dirai tout à l'heure comment il a fait, ou peut-être je le dirai seulement à la rentrée. Donc dans Friedman 2008, l'article, c'est l'article où il a résolu la conjecture d'Allon. On se débarrasse de mauvais graphes appelés tangles. Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé. Et ça permet de pousser la méthode à R arbitrairement grand. Et cette partie-là est vraiment très longue dans l'article de Friedman. Alors, pour voir la différence entre les deux méthodes, qu'est-ce que ça change d'avoir cette information sur le reste et éventuellement sur les distributions nuaires ? Pour qu'on voit ce que ça change, je vais d'abord montrer comment Friedman avait conclu en 91. Je l'avais déjà fait la dernière fois, je vais le refaire. Et puis, je vais dire comment on fait quand on a la méthode polynomiale. Alors, pour l'instant, ceci, je ne le démontre pas. Hein, je ferai ça à la rentrée. Mais ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est une fois qu'on sait ça. En fait, une fois qu'on sait ça, il y a pas mal d'étapes pour montrer ça, mais une fois qu'on sait ça, on peut conclure en quelques lignes. Là, la convergence forte, et il suffit même de faire R égale 0, comme j'ai dit. Voilà, et ce qu'on verra à la rentrée, c'est comment on démontre ça. Mais je vais d'abord réexpliquer comment faisait Friedman. Alors, on va choisir une fonction test phi de manière... voilà, il y a ces dérivés là. Q plus 1, c'est la valeur propre triviale. On sait qu'elle est toujours là et elle nous embête un peu, mais on va choisir en fait une fonction test dont la transformée de Fourier phi chapeau s'annule en ce point. Ça veut dire que... On va considérer un opérateur différentiel discret qu'on avait déjà introduit la dernière fois. Donc en fait, au lieu de travailler avec la fonction test phi de départ, on va la remplacer par le d à une certaine puissance, et je pense que... En fait, on veut que phi chapeau et toutes ses dérivées jusqu'à leur 2R s'annulent s'annule en la valeur propre triviale. Donc je crois qu'il faut prendre peut-être 2R plus 1. Donc au lieu de prendre notre fonction test de départ phi, on lui applique cet opérateur différentiel, ce qui fait que phi chapeau, il est transformé en phi chapeau de S, ça devient lambda de S ou un Q plus 1 à la puissance 2R plus 1 fois phi chapeau. Et toujours, lambda de S, c'est toujours ma notation c'est toujours cette notation là. Pardon. Il faut se souvenir que si je fais S égale I sur 2, ça correspond à la valeur propre triviale. Voilà. Alors ici, je vais peut-être en fait tout multiplier par racine de Q pour que ça. Je vais faire comme ça. Je multiplie. Voilà. Alors si je prends cette fonction test là, je suis sûr que delta R. Donc, cette nouvelle fonction test, je vais l'appeler psi, et ça transforme de Fourier psi chapeau. C'est la nouvelle fonction test qu'on met dans la formule des traces. Donc, je suis sûr que les masses de Dirac évaluées en psi vont s'annuler, hein, parce que une fonction comme ça, toutes ces dérivées, juste, si je ne me suis pas trompée dans la puissance que j'ai mise là, toutes ces dérivées jusqu'à l'ordre 2R s'annulent en la valeur propre triviale. Donc si j'ai choisi cette fonction-là, les termes principaux delta R de P vont faire 0. Et alors je vais pouvoir. C'est bien, je vais pouvoir. Je vais pouvoir réutiliser ce qui est écrit là. Alors maintenant, ma fonction test, c'est le phi chapeau, hein, c'est Sj fois lambda de Sj moins Q plus 1 à la bonne puissance. Et puis donc la formule de trace me dit que d'une part c'est égal à ça c'est un grand taux de n. J'ai toujours ce terme là qui est d'ordre de n. Donc je n'ai plus les delta r, mais il me reste les autres distributions. Donc cette somme là va être du coup pour ce choix de la fonction test là, cette somme là va juste être borné. Donc j'ai toute cette contribution-là qui est dans un terme borné, puisque la seule chose qui pouvait ne pas être bornée, c'était les delta R, mais j'ai choisi la fonction test pour que les masses de Dirac s'annulent en ce point-là. Et puis j'ai le reste. Et puis le reste, avec la méthode de Friedmann, c'est 1 à la puissance R plus 1. Et puis j'avais cette bande supérieure. À un bout d'un moment, je vais dire que c'est plus petit que le max de phi de L fois L à la puissance R plus 1 fois Q. Avec la grand L, il faut se souvenir que c'est le support de la fonction phi. Donc avec la méthode de Friedmann, on ne peut pas faire tellement mieux que de borner le reste avec un Q puissance grand L sur 2. Et ensuite, on avait dit on se sert toujours de la formule des traces pour dire... déjà, comme j'ai choisi une fonction dont la transformée de Fourier est positive, là, tous ces termes sont positifs. Donc, c'est plus grand que l'espérance de juste le terme qui correspond au lambda 1. Donc, lambda 1 moins Q plus 1 à la puissance 2R plus 1 phi chapeau de R1. Et ça, on avait vu la dernière fois que ça, c'est plus grand. Alors, on avait vu que la partie imaginaire de R1 est plus grand que alpha, alors phi chapeau de R1 est plus grand que Q puissance alpha grand L, avec toujours grand L qui est le support de la fonction phi. Donc on utilise ça pour borner cette espérance, pour dire qu'elle est toujours plus grande. Est toujours plus grande que la probabilité que la partie imaginaire de R1 soit plus grande que alpha fois Q puissance alpha L. Et puis quelque chose que j'avais un petit peu passé sous silence la dernière fois, c'est que ce terme-là peut faire 0 si lambda 1 égale Q plus 1. Donc la dernière fois j'avais un petit peu triché, j'avais juste écrit ça. C'est pas tout à fait vrai, parce que si le lambda 1 se mettait à se rapprocher trop près, se mettait à être trop proche de Q plus 1, ce que j'ai écrit là ne serait pas vrai, parce que cette fonction là s'annule, hein, devient très petite quand lambda 1 est proche de Q plus 1. Donc pour corriger, je vais me restreindre à des... Est-ce que c'est toujours là? Oui. Donc la partie imaginaire de R1 qui est égale à 1/2, c'est la valeur propre triviale. Donc je vais me fixer un état positif. Et je vais me restreindre au lieu où la partie imaginaire de R1 est suffisamment loin de 1/2 moins état. Ce qui veut dire que cette quantité-là est plus grande que état à la puissance 2R plus 1. Donc là, je modifie un petit peu ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Donc la méthode de Friedman consiste à dire que la probabilité que la partie imaginaire de R1 soit plus grande que alpha et plus petite que 1/2 moins état, fois cette quantité, je peux la borner par tout ça. Et là, je crois que maintenant, je peux effacer ça. Donc, ça va être plus petit. J'ai quelque chose qui est d'ordre n. Et puis, j'ai quelque chose qui est d'ordre 1 sur n à la puissance n plus 1 fois l à la puissance 2r plus 1 fois q à la puissance L sur 2. Je vais demander par exemple que phi soit plus petit que 1. Et puis là, j'ai Q puissance moins alpha L divisé par état à la puissance 2R plus 1. Eta va rester fixé. Ce qui m'intéresse, c'est le alpha. Alors, et je vous rappelle, le but, c'est de montrer que ça tend vers 0. On veut montrer que la probabilité d'avoir des valeurs propres trop grandes, donc avec partie imaginaire de R1 plus grande que alpha, tend vers 0. Et on avait vu que le bon choix de paramètres, c'était, si on veut que ces deux termes s'équilibrent, c'est de choisir grand L. Donc à ce stade, on choisit grand L. Pour l'instant, grand L était libre. Je vais choisir grand L tel que ces deux termes s'équilibrent. Donc Q à la puissance L sur 2, c'est N puissance R plus 2, c'est-à-dire que L... c'est deux fois le logarithme en base Q de N, pardon, deux fois R plus 2. Et du coup, donc, ça veut dire que ce terme-là va être d'ordre N, et ça veut, si je veux que cette quantité tende vers 0, il faut que je prenne alpha au moins égal à 1 sur 2 R plus 2. Donc si je choisis ces paramètres, alors la probabilité que la partie imaginaire de R1 soit plus grande que alpha, elle tend vers 0. Alors si je pouvais prendre R arbitrairement grand, ça voudrait dire qu'ici je peux prendre le alpha arbitrairement petit, ça répondrait à la question de la convergence forte. Mais comme j'ai dit, dans Friedman 91, on est bloqué à R qui est égal à une certaine valeur seuil, et c'est seulement en 2008 qu'il a réussi à prendre R beaucoup plus grand. Donc voilà, ça c'est la méthode de Friedman. Et pour, alors pourquoi on n'est pas embêté par cette restriction sur état, c'est que bon, il y a un argument que j'avais donné les deux années précédentes, qui est un argument de dénombrement assez élémentaire, bon, un peu pénible, c'est un argument un petit peu long, mais... je vais appeler ça un rappel, mais c'est un rappel des années précédentes. C'est que si on choisit bien le état, pourquoi c'est pas embêtant d'avoir rajouté cette condition ? En fait, la probabilité que le lambda 1 soit plus grand que Q plus 1 moins état, si état est assez petit, on peut montrer que ça tend vers 0. Et ça tend vers 0 au moins comme n à la puissance d sur 2 moins 1. Donc le fait de rajouter ou pas cette condition, ça ne change pas vraiment grand chose à notre méthode parce qu'on sait déjà, ça c'est en fait aussi. Si je fais état égale 0, la probabilité que la première valeur propre non triviale ce soit égale à Q plus 1, c'est égal à la probabilité que le graphe ne soit pas connexe. Le fait que la deuxième valeur propre soit égale à la première, ça équivaut à ce que le graphe ne soit pas connexe, et ça peut se calculer par un dénombrement. Qu'on avait fait l'année dernière. Donc pour état égal 0, c'est vraiment, ça revient exactement à calculer la probabilité que le graphe ne soit pas connexe. Et puis en fait, ce qu'on avait vu aussi, c'est que si on, par un argument un peu de perturbation, si état est suffisamment petit, cette propriété reste vraie. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà connu. Voilà, donc ça, c'est la méthode de Friedman. Donc, il faut choisir une bonne... il faut faire tendre L, voilà, il faut prendre grand L qui tend vers l'infini avec un coefficient bien choisi devant le logarithme de N. Maintenant, si on veut appliquer, si on veut conclure par la méthode polynomiale, alors... Comment conclut Chen, Garza Vargas, Trop et Van Kandel ? En supposant qu'on a démontré tout ça, donc faisons-le déjà pour R égale 0, pour voir que ça suffit déjà à montrer la convergence forte. Donc ce qui montre, c'est que l'espérance. Alors, dans leur méthode, voilà, c'est plus simple d'écrire les choses en termes de polynôme P. Donc l'espérance de la trace de P de lambda sur racine de Q, on a dit que c'est n fois donc on a le terme dominant qui est la mesure de Mathey. C'est toujours la trace du polynôme appliqué en la matrice d'adjacence. Donc on a la mesure de Kleston-McKay là, qui est portée par x entre moins 2 et 2. Et puis si je fais juste mon développement, donc j'ai nu 0, alors j'ai delta 0 de P, que je ne me trompe pas dans les notations, plus nu 0 de P. Hein, ça c'était le terme d'ordre 0. Et puis si je m'arrête. Et puis donc dans la méthode, j'ai 1 sur n. Si je m'arrête à l'ordre 0, ça veut dire que je m'arrête au reste d'ordre 1. Okay, voilà. Et je sais que j'ai maintenant toutes les informations sur ces formes linéaires. Delta 0, c'est une masse de Dirac en x. Donc comme précédemment, en fait, je vais prendre un polynôme qui s'annule en la valeur propre triviale. Nu 0, on sait que c'est une distribution de support. À la fois nu 0 et puis le reste, en fait. Le reste, ce sont toutes les deux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah non, pardon. Nu 0, on sait que c'est une distribution. Portée par moins 2, 2. Et puis le reste, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est une distribution qui peut se borner par la norme, par 9 dérivés de P. Alors je vais choisir. Bon, déjà, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où toutes ces quantités sont des distributions, ces identités qu'on avait démontrées pour des polynômes, je peux remplacer le polynôme par une fonction C-infini à support compact. C'est ça, en fait, toute la magie d'avoir su démontrer que ces coefficients sont en fait des distributions. C'est que au départ, on avait tout ça n'a été fait que pour des fonctions p qui sont des polynômes. Mais les polynômes sont denses. Pardon, les. Oui, si. Les polynômes, l'espace vectoriel des polynômes est dense dans l'espace des fonctions C infini à support compact pour ce genre de normes. Ce qui n'était pas possible, en fait, pour les normes considérées par Friedman. Mais ça veut dire qu'en fait, tout ça, qui était vrai pour des polynômes, je peux remplacer P par une fonction, par n'importe quelle fonction C infini ou même C9 à support compact. Par un argument de densité. Donc par densité des fonctions polynomiales dans les fonctions. Ici c'est 9, le 9 c'est parce que j'ai besoin de 9 dérivés pour borner le reste. Donc les fonctions de classe C9 à support compact, ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir P un polynôme, je peux. Cette identité, tout ça reste vrai. À la place du polynôme, je peux mettre n'importe quelle fonction à support compact. Donc, je change juste de notation parce que souvent la lettre P est réservée au polynôme, hein, mais j'aurais juste pu dire que P est maintenant une fonction dont je vais l'appeler peut-être, si ça n'a pas été déjà pris, je vais l'appeler H. Donc maintenant, les identités sont valables. Pour H, qui est une fonction suffisamment régulière à support compact. Et alors, je vais prendre H, je vais refaire mon dessin du spectre. Alors au départ, lambda, les valeurs propres de la matrice d'adjacence. Voilà, ça c'est... En fait, on veut montrer qu'elles sont toutes, sauf la valeur propre triviale, on veut montrer qu'avec une probabilité qui tend vers 1, elles sont toutes dans ce plus petit intervalle. Bon, alors j'ai raisonné, comme j'ai tout écrit avec lambda sur racine de Q, je vais peut-être tout refaire le même dessin. Du coup, lambda sur racine de Q, l'intervalle qui m'intéresse, c'est moins 2, 2. La valeur propre triviale, ça devient racine de Q plus 1 sur racine de Q. Et puis son opposé ici. Donc là, je suis en train de raisonner, non pas en lambda, mais en lambda. J'ai renormalisé la valeur propre. Je vais prendre une fonction test, donc déjà qui s'annule en la valeur propre triviale, pour ne plus avoir delta 0. Et puis, je vais prendre un petit epsilon ici. Je vais lui demander de s'annuler aussi. Je vais lui demander d'être comme ça, et puis peut-être ici, comme ça. Donc elle vaut 1. Voilà. Je vais prendre H, qui vaut identiquement 0 sur moins 2 moins epsilon, 2 plus epsilon. Je vais demander qu'elle s'annule en la valeur propre triviale. Et puis, je vais demander qu'elle vale 1. Peut-être ici, je vais mettre sur 2, peut-être ici. Et H, identiquement 1 sur... Alors, d'une part, sur... ici, je vais demander qu'elle vaille identiquement 1. Et x, et je demande aussi qu'elle vaille tout le temps 1 pour x entre 2 plus epsilon et puis racine de q plus 1 sur racine de q moins eta. Donc ce faisant, en fait, si je prends un h comme ça, comme h elle est nulle sur moins 2, 2, ce terme-là va valoir 0. Ce terme-là, il vaut 0. Et puis, oui, on sait que nu 0, on sait déjà, ça c'était connu depuis Feynman, on sait déjà que nu 0, elle est à support dans moins 2, 2, donc c'est pareil, ça fait 0. Et le reste, voilà, donc ça va... Je vais obtenir que l'espérance de la trace... de h de a sur racine de q, il y a que le reste avec cette méthode, il y a que le reste qui subsiste, hein. Il y a plus besoin dans la méthode de Friedman, il y avait tous les termes restés, puis j'avais besoin à un moment d'équilibrer le terme dominant et puis le reste. Là en fait tout disparaît sauf le reste. Ça fait 1 sur n et puis j'ai la norme. J'ai la norme, j'ai besoin de savoir borner 9 dérivés de H. Et puis, même ce que font les auteurs, hein, Chen, Garça, si je veux prendre un petit espace de taille epsilon, du coup, je vais obtenir quelque chose en epsilon à la puissance 9, 1 sur n. Alors, soit je décide que epsilon est fixé. Et du coup, ça c'est d'ordre 1 sur n. Soit je peux même faire tendre epsilon vers 0 à condition que ça soit toujours le 1 sur n qui l'emporte. Et par ailleurs, ça, ça c'est plus grand. Cette partie-là, la minoration de cette espérance, c'est un petit peu semblable à ce qu'avait fait Friedman. C'est plus grand que la probabilité que le lambda 1 Pardon. Je ne veux pas avoir la place. C'est plus grand que la probabilité que lambda 1 soit là où h vaut 1, donc que lambda 1 sur racine de q soit plus petit que moins 2 moins epsilon, où lambda 1 sur racine de q appartient à 2 moins epsilon eta. Donc on voit, hein, si à chaque fois que epsilon... Et puis encore une fois... Ah pardon, là c'est q, c'est toujours lambda 0 moins eta. Mais toujours ce eta, il ne m'embête pas vraiment parce que je sais déjà de toute façon que avec une grande probabilité, il n'y a pas de valeur propre trop proche de la valeur propre triviale. Donc ça, c'est plus petit. Hein, donc en fait, on a montré que cette probabilité, elle est, si epsilon est fixé, cette probabilité, elle est d'ordre 1 sur n, donc elle tend vers 0. Donc conclusion, je vais peut-être le réécrire. La probabilité... Alors, peut-être je vais tout... Donc soit que lambda 1 soit plus petit que moins 2 racine de q moins epsilon, soit que lambda 1 appartienne à 2 racine de q plus epsilon, je vais écrire q plus 1 moins eta, c'est plus petit que 1 sur epsilon à la puissance 9 fois 1 sur n. Voilà, donc là, un peu la magie d'avoir réussi à montrer que tous les termes qui apparaissent dans le développement sont des distributions, ça permet de remplacer le polynôme qu'on avait au départ par une fonction à support compact. Et donc, ça, ensuite, ça permet de bien choisir la fonction à support compact qui nous donne le résultat attendu. Et ça, vous voyez, en fait, il suffit de le faire pour r égale 0, et les termes suivants, ils sont là, ils sont utilisés par Chen, Garza, Varga, Trop et Van Trandel pour obtenir des raffinements. Je ne sais pas trop si j'énonce ces raffinements. Peut-être pas. Enfin, je vais peut-être, disons, je vais énoncer les résultats qu'ils obtiennent, mais je ne vais pas donner les détails des calculs. On va peut-être faire comme ça. Alors ici, on avait vu que tant qu'on fait les développements limités jusqu'à cette valeur critique, on sait déjà depuis Friedman que les nu R, ce sont des distributions portées par X entre moins 2 et 2. La nouvelle méthode polynomiale nous donne que même si on va plus loin, les nu R sont elles aussi des distributions. Et en fait, en combinant ça avec des choses qu'avait fait Friedman, c'est que pour... Si on se met à dépasser la valeur critique, nu R, son support, et en fait, on trouve, alors que je ne me trompe pas, alors, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient 2 vers plus 1 sur racine de q plus racine de q sur 2r plus 1. Ouais, c'est ça. Normalement, si 2R plus 1 égale Q, ça doit faire 2. Ça doit retrouver. Voilà. En fait, cette quantité-là, elle est plus petite que 2 tant qu'on n'a pas dépassé la valeur seuil. Et si grand R commence à dépasser la valeur seuil, cette quantité-là est plus grande que 2. Ça veut dire, en fait, on a un dessin comme ça. Là, on a une valeur propre critique. Tant qu'on n'a pas dépassé la valeur seuil, on sait déjà que les nu R supportés ici je crois que c'est strictement inférieur à la valeur seuil. Donc, tant qu'on fait les développements limités jusqu'à la valeur seuil, on n'a que des distributions portées par moins 2, 2. Et puis, quand on se met à dépasser cette valeur seuil, vous voyez que ça se met à dépasser 2. Et donc, on a un certain nombre de valeurs intermédiaires. Puis, à bout d'un moment, ça s'arrête quand on dépasse la valeur propre triviale. Mais là, on a des valeurs... je vais l'appeler peut-être... Cette quantité-là, je vais l'appeler x indice r. Donc, j'ai d'abord... Voilà, tous ces points-là, x indice r, c'est un nombre fini de points qui se situe entre 2 et la valeur propre triviale. Et en choisissant bien les fonctions test, en fait, ce qui arrive à montrer... donc, c'est toujours... à chaque fois, on prend des fonctions pour obtenir ces raffinements, on va prendre des fonctions test qui sont portées dans chacun d'entre xr et xr plus 1. Et ça va permettre de montrer que la probabilité... Alors, je fais un peu de mémoire les paramètres. La probabilité que lambda 1 soit plus grande... que racine de Q... En fait, il y a tous ces petits intervalles là, intermédiaires qui sont obtenus comme ça. Et la probabilité que lambda 1 soit 1 dans un de ces petits intervalles, ça va se borner par... En fait, ce qu'on arrive à gagner, c'est qu'on arrive à obtenir une meilleure puissance de n. Alors, c'est là que je pense que ça va être 1 sur n à la puissance r plus 1. Et c'est toujours, je crois que c'est... epsilon à la puissance 4r plus 5 ou quelque chose comme ça. Je sais pas si je peux vérifier ça rapidement. Je pense que c'est ça, mais à vérifier. En tout cas, voilà. Ça, les raffinements qu'on obtient, c'est que finalement, on a des intervalles comme ça qui se rapprochent de plus en plus de la valeur propre triviale et pour lequel on arrive à augmenter, à améliorer la vitesse de convergence vers zéro de ces probabilités-là. Et ça, c'est à chaque fois en choisissant la bonne fonction test. Alors, je regarde si je ne me suis pas décalé de 1. Si je fais r égale 0, c'est peut-être plus 9 ici. Ouais, je dirais non. Ça doit être quelque chose comme ça. Si je veux que ça soit cohérent avec ce que j'avais fait au départ. Mais à voir. À Alors, bon, on reste un petit peu de temps. Pendant le temps qui nous reste, alors, je vais un peu parler, mais je vais pas pouvoir dire grand-chose, mais je vais un petit. Ce qui reste peut-être à faire pour rendre justice à la méthode de Friedman, c'est de dire. Donc là, pour l'instant, avec la nouvelle méthode polynomiale, on a fini la preuve, mais en sachant qu'on n'a pas démontré que les coefficients étaient des distributions. Mais par contre, là, vous voyez, une fois qu'on a montré que les coefficients étaient des distributions, on peut conclure assez vite en choisissant bien les fonctions test. Là, avec la méthode de Friedman, pour l'instant, on n'a pas encore démontré la convergence forte, puisqu'on a été bloqué. La méthode de Friedman, en fait, pour l'instant, comme on a été bloqué à la valeur critique de grand R, on n'a pas encore fini de démontrer la convergence forte. Et pour ça, il faut se débarrasser de certains graphes. Alors, je vais peut-être commencer un tout petit peu à en parler. Comment il a réussi ? En fait, la question, c'est qu'il faut arriver à démontrer la propriété de Ramanujan pour les... C'est ce que je veux dire par là. Il faut montrer que les coefficients à faire qui apparaissent dans sa méthode sont des fonctions de Ramanujan pour des valeurs plus grandes. Et ça, en fait, on avait vu que ce n'est pas vrai pour le modèle de configuration initiale, parce que si c'était vrai, on avait fait l'argument, si c'était vrai, en fait, la probabilité d'avoir une valeur propre ici, elle décroîtrait plus vite que n'importe quelle puissance de grand N. Or, on sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'il y a une probabilité qui est certes petite, mais qui tend vers zéro, mais pas très vite, pour avoir des valeurs propres situées dans ce mauvais intervalle-là. Donc on sait qu'en fait, ce n'est pas vrai que toutes les fonctions FR sont des fonctions de Ramanujan. Ce n'est pas vrai pour le modèle de configuration qu'on étudie au départ. Il faut modifier ce modèle en supprimant une famille de graphes. Et c'est pas vrai non plus pour le modèle de permutation. En fait, c'est et si vous vous souvenez de comment on avait montré que les fonctions FR étaient des fonctions de Ramanujan, c'était en appliquant le résultat sur les fonctions polyexponentielles. Et la fonction G de M qui sortait. La question, c'était de savoir. Ce qui nous empêche d'aller au-delà de la valeur critique, c'est la borne sur la fonction G de M. Vous vous souvenez que il faut avoir une borne comme ça. Et le rho. En fait, on était en train de compter des géodésiques. Et ces géodésiques remplissaient un certain graphe. On avait introduit F, la forme du graphe rempli par la géodésique qui nous intéressait. Donc on s'intéressait à des géodésiques qui parcourent un certain graphe qu'on appelait grand F. Et le rho qui sortait ici, c'était la valeur de Perron-Frobenius dominante de ce graphe F. Et la méthode de Friedman s'écroulait à partir du moment où rho je crois que j'avais introduit gamma, le graphe rempli. Donc le graphe rempli, on continue à se souvenir de combien il y a de sommets sur le graphe, et puis quand on dit la forme du graphe, on enlève tous les sommets de degré 2. Et même en fait, rho, c'est, on pourrait même réécrire la preuve en prenant pour rho la valeur propre dominante de la matrice de Hashimoto de gamma. Et la méthode arrête de marcher à partir du moment où rho est plus grande que racine de Q. Strictement plus grande. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait trouvé... c'est comme ça qu'on avait trouvé la valeur critique. C'est que si on fait des développements limités, la manière dont on avait trouvé cette valeur critique, c'est en disant que si on fait des développements limités jusqu'à l'ordre R, il n'apparaît que des graphes de rang cyclique plus petits que R moins 1. Et pour ces graphes, et tant qu'on et pour des graphes de rang cyclique plus petits que R moins 1, si R n'est pas trop grand, en fait, cette valeur propre dominante va toujours rester plus petite que racine de Q. Donc, c'est la manière dont on en avait trouvé cette valeur critique, c'est exactement l'ordre jusqu'auquel on est sûr que toutes les valeurs propres qui nous embêtent, qui apparaissent, sont toujours plus petites que racine de Q. Et alors peut-être que je ne vais pas... je pense la prochaine fois, c'est dans plusieurs semaines, je ne vais pas détailler ce qu'a fait Friedman en détail, mais je vais juste là maintenant dire en 2-3 minutes... en 2-3 minutes, je vais dire... quels sont les graphes qui posent problème. Donc, les graphes qui posent problème, ce sont les graphes gamma dont la valeur propre de Hashimoto est plus grande que racine de Q. Et l'idée de Friedman, c'est que tant qu'on fait le développement limité à l'ordre R, on sait qu'il n'apparaît que des graphes gamma de rang cyclique plus petits que R plus 1. Donc des formes, ça revient au même. Or, si on se donne le rang cyclique R plus 1, il n'y a qu'un nombre fini de formes possibles. Donc, par exemple, si R égale 1, les graphes de rang cyclique 2, je crois que les deux formes possibles, c'est soit... Il y a trois formes possibles, je crois. Soit la forme du graphe est comme ça, soit la forme est comme ça, ou soit la forme est comme ça. Je crois que c'est... Si je veux un graphe qui est en gros formé de deux boucles, il n'y a que trois formes possibles. Ça, c'est F. Il n'y a que trois formes possibles. Et ensuite, gamma, il est obtenu, si vous vous souvenez, il est obtenu en disant combien d'arêtes je rajoute sur chacun des brins. Donc gamma, c'est F, j'avais noté ça, F de L. Ça veut dire je mets Li arête sur chaque, comment appeler ça, sur chaque portion de F. Et la remarque de Friedman, c'est que une fois qu'on s'est donné ce nombre fini de formes, si à chaque fois que je rajoute des arêtes sur une portion, la valeur propre de Hashimoto, elle augmente strictement. C'est une fonction monotone, on en avait déjà un petit peu parlé. La valeur propre de Hashimoto de F de L, elle augmente strictement si je rajoute des arêtes sur les portions. Donc la valeur propre de Hashimoto de F de L augmente. Diminue. Si j'augmente les coordonnées de L. Donc L, hein, c'est le vecteur qui me dit ici je vais mettre L1 arête, ici je vais en mettre L2, ici L3. Si j'augmente les Li. Pourquoi ? Parce que si je rajoute des arêtes, ça veut dire que j'ai moins de petites géodésiques. Et donc, ça veut dire que je diminue en fait la valeur propre de Hashimoto. Et donc, je peux toujours me donner. C'est là qu'apparaît. Je vais pas. Il apparaît une valeur seuil. C'est là qu'apparaît le xi qui était dans la méthode polyexponentielle, dans la définition de la convolution. Il y a une valeur seuil. Alors ici, n, c'est le nombre de portions de la forme f. Tel que, donc il existe une valeur seuil telle que si tous les Li sont plus grands que psi i, je suis sûr, la valeur propre de Hashimoto de F de L va toujours passer en dessous de racine de Q. Racine de Q, j'ai dit que les graphes qui m'embêtaient, c'est ceux qui ont une valeur propre de Hashimoto plus grande que racine de Q. Ben, en fait, une fois que je me suis donné le nombre fini de formes qui apparaissent dans les développements limités jusqu'à l'ordre R, je sais que si chaque portion est assez longue, la valeur propre de Hashimoto du graphe passe toujours en dessous de la racine de Q. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de graphes qui m'embête, en fait. Il n'y a qu'un nombre fini de graphes gamma de rang cyclique inférieur à R plus 1 et dont la valeur propre de Hashimoto est plus grande que racine de Q. Donc, en fait, ce qu'a réalisé, puis je vais m'arrêter là, ce qu'a réalisé Friedman, c'est qu'en fait, pour que sa méthode marche, il n'y a qu'un nombre fini de graphes qui pose problème. Et par ailleurs, ils ont une probabilité d'apparition qui tend vers zéro. La probabilité, c'est ces graphes-là qu'il appelle les tangles, cette collection finie de graphes. Et la probabilité que Gn contienne un tangle, elle tend vers zéro. Donc en fait, dans la méthode de Friedman, et là je pensais développer un petit peu comment il fait ça, mais c'est peut-être pas la peine. En fait, Friedman, à la fin, au lieu de travailler avec le modèle de configuration initiale, il travaille avec le modèle de configuration conditionné à ne pas contenir de tangle. C'est-à-dire, on prend pas tous les graphes possibles, on prend seulement les graphes qui ne contiennent pas ces tangles. On sait que, de toute façon, la probabilité des graphes qu'on a enlevés tend vers zéro, donc on a juste enlevé une proportion très petite de graphes. Ça n'a pas changé le résultat final. Mais en fait, on a enlevé un nombre fini de graphes qui sont responsables de l'échelle de sa méthode. Et une fois qu'on les a enlevés, donc on travaille... Peut-être je peux l'écrire et on va conclure là. On travaille avec le modèle de configuration conditionné à ne pas contenir ces tangles. Et à partir de là, la méthode marche pour des R arbitraires et ça montre la convergence forte. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc à la rentrée, je parlerai de la méthode polynomiale, de comment on démontre ça, et puis je parlerai aussi, même peut-être avant, d'un résultat sur des matrices aléatoires que je vois comme étant un peu précurseur de cette méthode polynomiale.
Voilà. Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.